Bonsoir, Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous.
La dispute. Ce soir, les arts plastiques.
Ce soir, Éric Loré et Frédéric Bonnet se font face à notre affiche. Alexander Calder qui fait face, lui, à Fichtier Weiss et à la Fondation Beyeler à Bâle. Eva Barthaud et Blue Sky Catastrophe, deux expositions à la Villa Arson à Nice. Nous évoquerons aussi plus rapidement les différentes expositions du nouveau musée national de Monaco. Et Frédéric Bonnet voudra nous parler du Louvre et de l'art contemporain. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Il y aura des cadeaux à gagner ce soir. Des places de cinéma pour aller voir le film La forêt des quinconces de Grégoire le Prince Ringuet qui est sorti aujourd'hui en salle. Enfin, nous avons rendez-vous avec la chanteuse et comédienne Camélia Jordana qui est toute cette semaine l'invitée de la dispute. Expositions au programme que je n'ai pas eu le plaisir de voir, n'ayant pu vous accompagner, messieurs, ni à Bâle, ni à Nice. Mais j'aurais bien aimé, hein. Mais en tout cas, l'envie intacte et encore plus grande de vous entendre en parler ce soir. On va commencer avec la Fondation Beyeler, une exposition qui met en regard Alexander Calder et le duo Fischli et Weiss. L'intérêt de la Fondation Beyeler pour Calder est ancien. Encore fallait-il avoir l'idée d'exposer ses œuvres à présent au regard de celles de Fichte et Weiss. C'est ce que fait Théodora Wischer, qui est commissaire de cette exposition, seigneur, curateur à la Fondation Beyeler. Une exposition conçue en collaboration avec la Calder Foundation de New York et avec l'artiste Peter Fischli, David Weiss étant mort en 2012. Un premier regard sur cette exposition avec Frédéric Bonnet.
C'est toujours un plaisir de se rendre à la Fondation Beyeler. Néanmoins, là, c'est pas l'expo qui m'aura le plus marqué dans ces lieux. Et c'est pas non plus une exposition qui va révolutionner la science, ni la science de l'art. Même si... c'est néanmoins une belle exposition parce que c'est quand même toujours des belles expositions chez Beyeler. C'est toujours un lieu où on arrive à voir des œuvres incroyables avec des prêts qui sont quasiment les seuls au monde à réussir à obtenir. Bon là en plus la partie Calder ayant été réalisée avec l'aide de la fondation Calder et notamment du petit-fils de l'artiste, évidemment ça aide beaucoup à obtenir quelques prêts prestigieux. Voire difficile. C'était évidemment complètement inattendu cette rencontre entre le duo de trublions suisses Fichtli et Weiss et Alexander Calder. C'est finalement pas mal vu du tout.
Ah, c'est ça la question, Olivier, en général.
C'est pas mal vu dans la mesure où Théodora Wischer est partie d'une question de l'équilibre et de la précarité. Qui, en effet, c'est vrai que je n'y aurais pas pensé en voir cette exposition-là, mais est un élément important, si ce n'est un des fondements des deux pratiques. Après, pour tout dire, déployer ça sur une aussi grande surface, finalement, c'est pas, on construit pas une exposition à partir de ce seul argument qui, au final, est un peu court pour toute une exposition. Voilà, c'est un peu les limites de l'exercice. La question donc est plutôt bien vue. Après. Peut-être que pour donner autant d'espace à cette rencontre, il aurait fallu imaginer les choses autrement. En même temps, on peut pas inventer ce qui n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on
vous avez une impression avant de passer précisément au parcours, une impression générale préalable d'Éric Lauré. Est-ce que vous avez un peu le même sentiment légèrement mitigé vous aussi?
Tout à fait. D'ailleurs, Théodora Fischer, elle-même, dans sa note, son long article du catalogue finit sur une sorte de constat de semi-échec, disant que les deux œuvres, donc de Calder d'un côté et Fischli et Weiss de l'autre, tous les opposent. Et en effet, on peut dire que esthétiquement, d'un côté, on a une modernité qu'on va dire positive ou positiviste, à la recherche précisément de l'équilibre, celle de Calder, à la recherche du plein, qui est très peu marqué par l'ombre d'un doute, en quelque sorte. C'est pas ce qui la caractérise. Et de l'autre côté, on a des performeurs de l'idiotie, hein, déguisés en peluche à la recherche du sens. Sur l'équilibre, cette vidéo que tout le monde connaît à peu près, qui est en ligne d'ailleurs sur Internet en plusieurs formats, qui s'appelle Le cours des choses.
Tout le monde ne la connaît pas, alors quelques descriptions.
Der Lauf der Ding, qui est une écroulade. Ce sont des objets du quotidien ou objets de chantier, enfin divers, dans un atelier qui, par un jeu de marabout, s'enflamme, s'asperge les uns les autres. Donc il y a un mouvement comme ça, ils se tombent les uns sur les autres et créent un non-sens. C'est-à-dire, ils créent évidemment quelque chose, une animation, mais une animation dépourvue de sens, dépourvue de but. C'est Beckett, tous ceux qui tombent, hein, d'une certaine façon. Enfin, c'est sur le caduc, comme genre d'œuvre. Et donc cette esthétique de l'idiotie, du non-sens, elle est tout à fait dans une postmodernité, du neutre, ou je sais pas, ou de l'indifférence. Hein. C'est alors les premiers objets qui sont présentés, ce sont des soit en ciment, je crois, soit en caoutchouc, qui se ressemblent, des morceaux de tuyaux, des morceaux de murs. C'est l'indifférence des ruines, d'une certaine façon, hein, qui sont là obtus face aux visiteurs, tout à l'opposé des figures humaines, au contraire des cirques de Calder, des figures reconnaissables, Joséphine Baker par exemple. Donc en effet, on peut dire esthétiquement, il semble que tout les oppose, mais finit-elle par dire précisément, ce sont deux revers d'une même médaille. Alors on dit, ouais, pourquoi pas, le bien, le mal, le noir, le blanc, on peut toujours les mettre ensemble. Alors ce qui est gênant peut-être, c'est que s'il y a une série équilibre chez Fischli et Weiss, qui sont des photographies de légumes, en gros, pour simplifier, plus ou moins en équilibre sur des râpes, c'est plutôt la recherche de la nullité et de la vanité et du zéro là que la recherche de l'équilibre. Alors on se dit certes ça se ressemble, mais c'est quand même dans un tout autre esprit. Donc les mettre ensemble, comme le disait Frédéric Bonnet, ça venait pas à l'esprit d'abord. Ça semble un jeu de pure forme en fait, hein, c'est-à-dire d'avoir mis côte à côte. C'est comme si on mettait deux cercles, mais bon, ça ne suffit pas. Ceci dit, pour d'autres raisons, elle est très intéressante, cette exposition.
Mais alors, est-ce qu'on les met vraiment côte à côte? C'est-à-dire, comment est construit le parcours, justement, avec Bonnet?
Mais c'est aussi un second élément de déception, c'est que finalement, ils sont très très peu mis côte à côte. Il y a guère que dans la première salle, dans l'introduction, dans le hall de la fondation et dans la première salle, où effectivement, il y a des confrontations d'œuvres des deux artistes, on va dire. Après, dans le parcours, ce sont des salles, une salle Calder, une salle Fischli & Weiss, je résume,
c'est deux ou trois, c'est pas, voilà.
Mais finalement, il n'y a il y a pas vraiment de rencontre, et ça aussi c'est un motif de déception, parce que finalement, est-ce que ça n'accrédite pas la thèse que voilà ce qu'on disait, que on est, même si il y a une idée commune, donc d'équilibre aussi dans le bricolage et l'expérimentation qui peut se rejoindre, mais que ça peut pas faire toute une exposition, parce qu'au final les œuvres sont peut-être assez antinomiques. Alors on et même dans la première exposition, la première salle pardon de l'exposition, il y a cette belle série de sculptures de Fischli & Weiss qui font partie d'un ensemble qui s'intitule Walls Corner Tubes, et qui sont des fragments architecturaux déconnectés de tout contexte. C'est vraiment des volumes basiques, très géométriques. Et en face de ça, on a une sculpture de Calder hyper fine. C'est vraiment du fil de fer tenu par deux morceaux d'ébène. Et puis, il y a trois équilibristes. Bon, qui ça, c'est la magie de Calder, hein, avec pas grand-chose de faire des figurines qui sont là. Et donc, on a des sculptures qui sont un peu lourdes d'un côté, avec une légèreté extrême, si ce n'est excessive, de l'autre. On n'est pas du tout dans ces questions d'équilibre, hormis, mais bon, là, on va tirer le truc un peu loin quand même. Dans une des sculptures de Fischli & Weiss, c'est deux parallélépipèdes qui sont l'un au-dessus de l'autre, mais effectivement, il y en a un qui pourrait peut-être tomber. Bon, ça va, on va pas non plus passer un quart d'heure à regarder s'il va se passer quelque chose. Voilà. Donc c'est aussi un petit peu déceptif de ce point de vue-là. Il n'y a pas véritablement de rencontre.
Alors, comme vous le disiez, l'intérêt, si je résume un peu, c'est quand même qu'il y a des très belles œuvres de Calder et très belles œuvres de Fischli & Weiss. On a deux expos monographiques, en fait, qu'on a voulu nous vendre comme une rencontre, Éric Loret.
Mais c'est exactement ce que j'allais dire. On va pas se plaindre, on a deux expos,
ça.
Très bien. Donc,
mais il faut pas juste imaginer qu'elles travaillent vraiment ensemble.
Sur
ce que vous avez dit. Voilà.
Sauf à se dire que deux principes opposés, par l'opposition, se rejoignent, en effet. Alors, que verra-t-on
On verra de belles œuvres.
À cette exposition, j'ai été assez touché, moi, par les reliques, en quelque sorte, enfin, le côté fétichiste autour de Calder, comme un autoportrait enfant de 1907, qui est déjà sur l'équilibre, parce qu'on le voit avec... alors, c'est un dessin extrêmement laid. On le voit en train de bricoler, et on dirait qu'il a posé une branche qu'il est en train de scier ou on ne sait quoi sur un tabouret. Donc la question, déjà, je vous le montre puisque j'ai le catalogue, je ne sais pas faire
merci.
De bruit. Voilà, donc
c'est
il
bien.
Est déjà en acrobate alors qu'il est tout petit. Il y a aussi beaucoup de numéros d'une revue pour laquelle, en 1927, une revue américaine, il dessine, et on voit la fascination bien normale à l'époque de la figure de Charlie Chaplin, dont il est question d'ailleurs dans l'expo, puisque c'est vrai qu'on oublie, enfin on n'oublie pas, mais Fernand Léger, enfin toute une partie optique ou paraburlesque de l'art du cubisme et de l'art des années 20 se construit autour de ce corps, ce corps marionnette de Charlie Chaplin. Donc on le voit aussi chez Calder. Toutes les sculptures des années 30 de Josephine Baker d'acrobates, c'est absolument merveilleux de les voir en vrai, parce que la plupart du temps on est plutôt exposé à ces mobiles, dont je dois bien avouer qu'avec la plupart de mes contemporains je ne suis pas friand, je crois, parce que c'est un... Voilà, c'est chaque fois qu'on va quelque part dans un musée d'art moderne, on voit les mobiles de Calder. Donc là, on découvre une autre facette. Il y a sa rencontre avec Malevitch et tout d'un coup, une peinture très matérielle, minimaliste, par exemple. Il y a plein d'autres éléments. Un film que j'ai noté de Jean-Pain Levé. Jean-Pain Levé, bien connu des amateurs de plongée sous-marine et du club des sous-l'eau. Club de curateurs artistes. Là, c'est le cirque de Calder filmé par Pain Levé. C'est le seul moment d'ailleurs où on trouve une occurrence assez négative. Il y a une poupée qui est déshabillée, et chaque fois qu'on enlève une pièce de vêtement, la poupée qui a une tête de mort, cette tête de mort se hausse comme ça. Elle a une sorte de petit hoquet de surprise et d'acceptation à la fois. Donc, dans ce cirque, il y a un élément noir, mexicain peut-être, de Calavera. On va supposer bien à la mode aussi à l'époque.
À l'époque.
Bon, donc il y a toutes sortes de petites surprises comme ça, sur Fischli et Weiss.
Frédéric Bonnet, voilà. Va prendre le relais.
Oui, sur Fischli et Weiss, c'est toujours un bonheur, Fischli et Weiss. Moi, je suis un amateur inconditionnel de Fischli et Weiss. J'ai quand même, je connais pas tout le travail, mais je connais quand même très bien le travail. J'ai quand même vu une vidéo que je ne connaissais pas. Donc ça, j'étais très 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 content. C'est une vidéo de 2009 qui est encore avec le rat et l'ours. Et ils sont suspendus à un fil, justement. Et alors, je sais pas, je crois que ça dure un quart d'heure, quelque chose comme ça. Et on voit des espèces d'ectoplasme qui sont suspendus dans un espace entre le noir et la lumière. On ne sait pas si c'est des étoiles, on est complètement perdu. C'est assez hypnotique. Moi, ça m'a assez ravi parce que je suis toujours assez ravi par cette expérience de toujours d'une défaillance humaine dans le travail de Fischli et Weiss. Aussi, je dois dire qu'il y a une chose qui est particulièrement bien faite, c'est au détour d'un petit coin de salle, il y a une bassine avec une éponge et puis deux, trois outils. On pourrait penser que c'est les ouvriers qui ont laissé le truc là, et en fait pas du tout, c'est des installations qu'ils ont fait dans les années 90 et qui sont des reproductions du cadre de travail ou d'outils. Donc c'est pas une vraie bassine, c'est pas une vraie éponge. C'est donc des anti-ready-made, et c'est là aussi où on voit toute la finesse de ces artistes qui réussissent même à renverser ce principe-là. Du côté de Calder, il y a aussi une très belle installation qui est, si je ne me trompe pas, sa première pièce suspendue, son premier mobile, daté de 1931, je crois, et qui s'intitule Small Sphere and Heavy Sphere. Donc c'est deux boules qui sont suspendues, et au sol il y a des objets, il y a des bouteilles, et il y a une sphère qui se met en branle et qui va essayer d'aller cogner l'autre. Et ça, c'est une installation que j'avais jamais vue et qui est assez bluffante, surtout par rapport à la date à laquelle elle a été réalisée, et sachant après ce qu'elle va pouvoir générer dans le travail.
Vous voulez dire un dernier mot, Eric Loret ?
Ah ouais ?
Allez, deux. Tout petit, deux.
Non, il y a un scoop, il y a une vitrine rassemblant plusieurs objets d'Earl of Derding, en fait, qui, je crois, n'a jamais été présenté, ou pas comme ça, en tout cas. Enfin, ça, on nous l'a donné comme quelque chose d'assez extraordinaire, sauf qu'évidemment, en arrêt, ils sont un peu moins drôles qu'en mouvement. Et Weiss est mort, ce qu'on oublie trop souvent de dire, ce qui est assez étonnant, puisque là, il y avait un jardin réactivé par Fischli und Weiss. On se dit, ah bon, il est sorti de sa tombe, alors Weiss. Et à la fin de l'expo, ou au début, comme vous voyez, vous traversez, donc vous sortez du
bâtiment de
la fondation, vous sortez même de l'enclos, vous traversez la route, et de l'autre côté, il y a un jardin où tout a été laissé, un peu comme vient de dire Frédéric, avec bêche, cabane de jardinier tout au milieu. Et je me suis dit, ah, mais ça doit être en fait le cimetière où est enterré Weiss.
Alexander Calder, Fischli et Weiss, ça fait deux expositions pour le prix d'une à la Fondation Beyeler à Bâle jusqu'au 4 septembre. Un catalogue alors commun quand même, édité pour l'occasion avec ce texte de Théodora Vischer dont vous parliez. Je ne sais jamais prononcer le nom de l'éditeur, donc je dis Hatch Kantz parce que ça s'écrit comme ça, donc je le dirai comme ça pour l'instant.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure de deux expositions à la Villa Arson à Nice. On retrouvera avant cela l'invité de la dispute, la chanteuse et comédienne Camélia Jordana. Nous évoquerons aussi d'autres expositions au nouveau musée national de Monaco, Dwayne Hanson et Thomas Demand à la Villa Paloma et Francesco Vezzoli à la Villa Sauber. Et on écoutera aussi avec intérêt Frédéric Bonnet se demander ce que fait le Louvre avec l'art contemporain à propos notamment de J.R. et d'Eva Jospin. Deux artistes qui ont bien sûr nourri la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute dont nous découvrons maintenant un nouveau chapitre avec Antoine Guillot. « Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Un nouveau chapitre qui commence par un chiffre 49. C'est, nous apprend une brève de Libération, le nombre de statues en bronze qu'Athènes veut remplacer par des moulages pour mettre les originaux à l'abri des vandales, soit un quart des statues de la capitale grecque. Ces derniers temps, les cas de vandalisme et de vol des œuvres en métal pour en récupérer le cuivre se sont multipliés. La plupart des statues concernées sont en plein centre. C'est là que 5 bustes en bronze ornant la cour du centre culturel municipal avaient été volés le 25 mai. Ce fut la goutte qui a fait déborder le vase. Autre cible, les plaques d'égout en fonte qui ont tendance, elles aussi, à disparaître des trottoirs. La disparition est le maître mot de la revue de presse culturelle ce soir, à l'image de cette performance inédite qui se tiendra au musée Picasso samedi prochain, 25 juin à 16h, et dont nous informe une autre brève de Libération. L'artiste espagnol Miquel Barceló, exposé en ce moment au sous-sol, va créer une œuvre sur toile unique vouée à disparaître, accompagnée au piano par une improvisation de Pascal Comlade, le tout durant 30 minutes. Disparition encore signalée cette fois par une brève du Monde. Le musée national du Danemark à Copenhague a annoncé mardi 7 juin avoir supprimé les mots nègre et hottentote, le nom donné par les Hollandais à l'ethnie africaine Khoi Khoi, des titres et descriptions de 14 œuvres parce qu'ils reflétaient la langue de l'époque coloniale. Ces termes avaient été utilisés par des experts du musée ou des historiens de l'art. Les titres donnés par les artistes, en revanche, eux, ne seront pas modifiés. Ces dernières années, on l'avait rapporté ici, le Rijksmuseum d'Amsterdam s'est lancé dans une entreprise similaire de chasse aux termes racistes dans les cartels des œuvres de son immense collection, en se gardant lui aussi d'effacer les titres donnés par les artistes. Sauf que parfois, ce sont les artistes eux-mêmes qui demandent la disparition là, carrément de leurs œuvres, comme le raconte Nathalie Eggs dans le Journal des Arts, à l'occasion de la conférence d'Herzliya, cet événement annuel qui aborde les enjeux internationaux et réunissait du 7 au 9 juin des personnalités politiques israéliennes et internationales. L'artiste Dani Caravan a déclaré avoir demandé à plusieurs reprises que l'œuvre in situ qu'il a conçue en 1966 pour la Knesset soit retirée, rapporte le quotidien Haaretz. L'artiste israélien a dit renouveler sa demande jusqu'à ce que le Parlement reflète l'esprit de la déclaration d'indépendance d'Israël de 1948. J'ai réalisé, explique-t-il, plusieurs commandes publiques qui appartiennent désormais au site, à leur paysage, à leur environnement et qui répondent à leur mission. Mais en ce qui concerne le mur que j'ai conçu pour la Knesset, j'en suis parfois honteux et j'ai demandé plusieurs fois à ce qu'il soit enlevé jusqu'à ce que le Parlement représente la déclaration d'indépendance, a-t-il déclaré. Dani Caravan, qui représentait Israël à la Biennale de Venise en 1976 mais exposé à la Documenta 6 de Cassel en 1977, faisait notamment référence aux dernières mesures annoncées par Miri Regev, la ministre de la Culture et des Sports d'Israël. Mercredi 15 juin, Miri Regev a imposé aux structures culturelles qui reçoivent des subventions de l'État de fournir une déclaration mentionnant l'organisation ou non de manifestations en Cisjordanie, au Negev et en Galilée. Les organisations qui ne sont pas actives dans ces régions verront leurs subventions baisser de 33%, tandis que l'État accordera une aide supplémentaire de 10% aux structures actives sur ces territoires. Pour Dani Caravan, ces mesures menacent et pénalisent les associations qui refusent d'organiser des événements sur les territoires palestiniens occupés. Qu'est-ce si ce n'est une dictature, s'est-il exclamé. Ministre de la Culture depuis le 6 mai 2015, Miri Regev appartient à l'aile dure du Likoud, le parti de droite de Benjamin Netanyahou. En janvier, on en avait parlé ici, elle avait déjà suscité la controverse en présentant un projet de loi visant à couper les subventions aux institutions culturelles qui ne seraient pas loyales, entre guillemets, envers l'État d'Israël. De son côté, le chorégraphe Oad Naharin, dont le biopic Mister Gaga est actuellement à l'affiche dans certaines salles de cinéma, a gardé son sang-froid. Miri Regev est arrivée et elle repartira. Le gouvernement est arrivé et il repartira. Et ceci n'est pas une opinion, c'est un fait. L'art ne dépend pas de l'argent. Nous créons sans dépendance à l'argent. Vous devez vous souvenir que ce n'est pas le gouvernement qui rend possible et qui rendra possible la personne que nous sommes, ainsi que la création. Chez le voisin palestinien, les politiques culturelles laissent parfois tout aussi perplexes. La cérémonie d'ouverture du premier musée palestinien, mercredi 18 mai, dans la ville universitaire de Bir Zeit, au nord de Ramallah, a suscité des réactions mitigées, raconte ainsi Nathalie Hamou dans Télérama. La raison, la nouvelle institution dédiée à l'histoire et à la culture palestinienne, qui devait ouvrir ses portes au public en juin, a été inaugurée vide. L'édifice de 3000 mètres carrés reste pour l'heure, et au moins jusqu'à l'automne, dépourvu de toute installation. Et ce, après la récente démission de son directeur, Jack Persekian, acteur majeur de l'art contemporain, dont l'exposition inaugurale Never Part n'était pas au goût des initiateurs du projet. Nul ne conteste la portée symbolique du vernissage en présence du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Porté depuis 1997 par l'ONG Tawan, le projet a été financé à hauteur de 30 millions de dollars par des donateurs palestiniens. L'existence même de ce musée équivaut, comme l'a rappelé son président Omar Al-Khattan, à une déclaration d'indépendance culturelle. Et puis l'avantage des musées sans œuvre, c'est qu'elles ne risquent pas de disparaître.
Oui, c'est une logique absolument implacable. Y a-t-il des faits, messieurs, sur lesquels vous souhaitiez revenir, que vous souhaitiez commenter? Pas ce soir, non? Vous êtes déjà sur la suite de cette émission.
J'en ai le tour de tout ce qui a été
toutes dit. Ces nouvelles, hein, ça fait beaucoup, hein, entre les statues athéniennes remplacées. Les cartels danois aussi changés.
Non, mais si on change pas le titre, pourquoi pas, oui.
Les cartels?
Oui, non, oui. Voilà, qu'il y ait une révision, une retraduction, disons. Après, c'est toujours dommage de pas garder les termes avec, voilà, une note de bas de page disant, au 19e siècle,
dans
c'est ainsi qu'on désignait. Ben oui, puisqu'après on oublie tout, enfin tout ça.
Avec Bonnet, finalement.
Oui, je pense aussi que sur cette question de rebaptiser des œuvres, ça doit passer plutôt par la médiation et par l'accompagnement des œuvres, mais que ça peut être une très très grave erreur qu'effectivement, si on rebaptise complètement des œuvres pour enlever des termes qui certes sont problématiques, mais qui appartiennent à un contexte donné et à une époque donnée, qui sont le reflet d'une époque et voilà, d'une politique, d'une culture, et que bon, évidemment, les choses ont évolué très bien, ça n'est plus acceptable aujourd'hui, très bien, on en fait mention quelque part à côté, mais je trouve ça très dangereux de commencer à aller tripatouiller les choses.
Avec Laurent ?
Oui, voilà, l'effacement, c'est jamais une solution, et lorsque le présent se croit meilleur que le passé, en général, il est dans l'erreur.
Bien. Mais pour poursuivre, hein, dans l'esprit revue de presse, c'est vrai qu'on a plusieurs fois parlé de JR, et je crois d'Eva Jospin aussi, me semble-t-il, et vous aviez envie d'en parler ce soir, Frédéric Bonnet.
Mais oui, parce que je me demande s'il y a encore une politique de l'art contemporain au Louvre en ce moment. J'ai le souvenir d'une présidence précédente, celle d'Henri Loirette, pour ne pas le nommer, pendant laquelle on a vu des expositions de Jean-Luc Moulin, de Sarkis, de William Kentridge, de Marc Lewis, de Walid Rad, et de plein d'autres comme ça, qui n'étaient pas forcément toutes réussies, mais qui en tout cas composaient un programme solide, cohérent, pensé, voilà. Avec un esprit. Et depuis l'arrivée de Jean-Luc Martinez à la tête du musée, ben, on n'a quand même plus grand-chose. Et puis là, subitement, on est assailli par deux projets nouveaux. Alors voilà, l'art contemporain, il se bat au Louvre. Alors qu'est-ce qu'on a? On a dans la cour carrée la forêt d'Eva Jospin. Alors c'est une espèce de structure géométrique recouverte de miroirs. Ça reflète les bâtiments à côté. C'est bien, c'est joli, super, ça fait de l'effet. On rentre, on a la forêt en carton. Ok, ça fait 10 ans à peu près qu'elle fait de la forêt en carton. C'est la première fois qu'elle en fait une si grande dans laquelle on peut rentrer, mais en fait, ça fait 10 ans qu'elle sculpte de la forêt sur le carton. Bon. Et puis de l'autre côté, on a JR qui, dans un geste d'une arrogance incroyable, efface tout simplement la pyramide du Louvre avec une photo. Il veut refaire une anamorphose et recréer, si on se met au bon point, au bon point de vue, la façade du musée. Et là, c'est accompagné encore une fois d'un discours lénifiant et aura des pâquerettes. Moi, c'est vrai que j'ai énormément de mal avec cette espèce d'humanisme simpliste et démagogique qui caractérise le travail de JR. C'est quand même pas parce qu'on met des images géantes dans une favela de Rio qu'on questionne le statut ou la diffusion des images, et c'est pas parce qu'on photographie des pauvres et qu'on va les afficher en grand format qu'on va leur rendre leur dignité et faire quelque chose pour l'humanité. Et donner une telle place à une œuvre, là encore une fois, d'une telle arrogance, c'est complètement, hormis pour satisfaire un ego démesuré, je ne vois pas trop à quoi ça sert, et donc je me demande, y a-t-il encore une politique de l'art contemporain au Louvre? Et là, ben, je m'adresse à Monsieur Martinez, s'il vous plaît Monsieur Martinez, soit vous décidez de ne plus faire d'art contemporain, vous restez dans les plates-bandes qui vous intéressent, ben, très bien, soit vous relancez une véritable politique de l'art contemporain, mais par pitié, arrêtez le carnage.
Éric Loret?
Oui.
GR, Eva Jospin, l'art contemporain en Louvre.
Eva Jospin, je suis pas allé voir. Donc, j'avoue, récemment. JR, j'ai vu. Bah, en tout cas, ça fait parler sur les réseaux. Ça, c'est pas mal. Ça nourrit.
C'est pas mal.
Non, mais le buzz, c'est toujours bien. Hein.
C'est ironique, fait... Eric Loret.
Oui, comme d'hab.
Il faut quand même l'expliquer aux gens qui nous écoutent. C'est pas toujours perceptible chez vous.
Non,
parce qu'il y a la photo du point de vue à l'endroit où.
Oui, parce que si on se met
la pyramide.
Si on se met ailleurs, ça marche
si
pas du
tout.
Si on
se met à mettre à côté, ça marche plus.
Semble-t-il. Non, mais après, l'effet, justement, buzz, peut-être peut avoir.
Et puis surtout, c'est chouette parce que ça n'a rien coûté au Louvre, hein, parce que c'est lui qui a trouvé des mécènes, donc ça coûte rien.
Ah, c'est pas les restes du crowdfunding qu'il avait fait avec Agnès Varda, non?
Peut-être aussi, peut-être. Qui était l'alliance.
Moi, j'ai.
Pour ça, vous dérange pas.
Mais c'est sûr que c'est pas la première horreur en même temps qu'on voit, donc ça me dérange pas plus que ça.
Mais je pourrais arrêter d'en voir aussi, hein. Moi, ça m'avait tout à fait scandalisé, cette œuvre de JR aussi. Je trouvais ça d'une prétention et d'une...
Tout ça...
D'accord, j'en fichais complètement.
Ben oui, en
fait, Antoine Guillot, vous qui lisez beaucoup la presse et qui avez vu un peu tous les, voilà, tout ce qu'on a pu dire. Hein, on a quand même beaucoup loué JR hein, quand même pour ce magnifique geste.
Dans la presse, ça a été beaucoup salué pour la performance technique. C'est-à-dire que c'était vraiment comme d'autres grands illusionnistes télévisuels font disparaître la tour Eiffel. Lui, il avait fait disparaître la pyramide du Louvre. Donc ça a été vu comme ça. Après, quand on passe effectivement dans le Louvre, parce qu'il m'arrive de traverser le Louvre à pied, ce qui est un peu compliqué en ce moment avec le plan Vigipirate parce qu'on peut pas passer d'une cour à l'autre, etc. Il est de toute façon impossible de voir la pyramide selon le bon angle, parce qu'évidemment tout le monde
s'agglutine
et brandit comme dans des concerts de rock les téléphones portables et autres appareils photo pour prendre la photo. Donc de toute façon vous n'aurez jamais la photo idéale qui fera disparaître complètement la pyramide.
Eric Loret,
non, il faut préciser que c'est en noir et blanc quand même la photo, forcément, ouais, puisque c'est JR, donc ça fait disparaître
ça
pas
fait
complètement.
Un effet.
Il est peut-être daltonien, non? La seule idée qui est un métadiscours, ça me fait penser à l'effet Christian Bobin il y a 25 ans. C'est-à-dire que JR paie aussi le fait que tout le monde s'est ébobi tout d'un coup sur JR, c'est formidable, je me rappelle Rencontre d'Arles, ces visages géants, etc. Et après, on se déteste d'avoir aimé un truc dont on s'aperçoit que finalement c'était naze.
Non, moi je suis pas d'accord avec vous sur Christian Bobin, je vous suivrai pas. Moi j'ai aimé ses premiers textes, voilà, je m'en suis effectivement un peu détaché, mais je pense.
Vous vous rappelez? Et puis deux ans après, on se disait, non, mais c'est pas possible. Cette machine à combiner des titres de Blanchot, en plus, c'était pathétique.
Je me suis dit qu'après, j'aimais moins, mais bon.
Vous voyez, vous avez été dans le même cas.
Mais j'ai aimé ces livres et je ne le renie pas. Vous savez jusqu'à quand on va devoir supporter cette image de JR?
Ah, j'en ai aucune idée.
Non, on va pas inciter les gens à arracher les affiches. Ce serait vraiment pas une chose à faire.
On va laisser passer la saison touristique.
On va laisser passer la saison touristique. Mais là, il n'y a pas de vandalisme assez étrange au Louvre. Allez, allons à Monaco, une maison bien gardée, oui, au nouveau musée national.
Comme on était en Suisse et qu'on va aller à Nice, on continue un peu du côté suisse. On va à Monaco dans une extension. Donc, le nouveau musée national de Monaco est divisé en Villa Sauber et Villa Paloma. La Villa Sauber, généralement, est dédiée aux robes de la princesse, comme on dit là-bas. Et alors, il y a une variation cette fois-ci. Ce ne sont pas les robes de la princesse. C'est une exposition de Vezzoli.
Presque.
Autour de Marlène Dietrich. Et on est là aussi dans le registre de la moquerie et Dietrich, si vous voulez. Dans le registre de la moquerie, c'est Francesco Vezzoli qui fait ça, puisqu'il a fait c'était quoi l'explication? Par des artisans peindre des faux Picasso, des faux Magritte, des faux Dali, tout ce que vous voulez, dont le sujet est Marlène Dietrich, alors que la pauvre, elle n'a jamais été honorée, par des photographes, oui, mais pas par les peintres, donc de portraits modernes ou modernistes. Il y a une robe qui a servi à une performance de Vezzoli. Donc on est un petit peu, si vous voulez, entre le délire, comme on disait, camp.
Le
fétichisme PD de la robe de princesse, qu'on appelait camp quand j'étais jeune, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais pas ce que.
Vous étiez jeune il n'y a pas très longtemps, finalement.
C'est un concept qui n'existe plus, mais enfin, en gros, c'est drama queen, quoi. Et qui se termine sur une vidéo d'une obscénité à faire frémir tous les petits monégasques. Donc surtout, si vous...
Il y a
une garderie mise à disposition pour que les enfants n'y aillent pas. Et alors dans l'autre, c'est Don Hanson à la Villa Paloma. Bon, Don Hanson, on connaît tous nos livres d'histoire de l'art. Mais si, même en troisième, il y a des photos de Don Hanson.
Bien sûr.
Il est d'accord, Frédéric Bonnet. Lorsqu'on apprend l'histoire du pop art de l'Amérique dans les années 60-70, 70, c'est le bonhomme qui représente en grandeur vivante, mais un peu plus en fait, ce que je ne savais pas parce que j'en avais jamais vu, une classe moyenne ou classe moyenne légèrement supérieure, enfin ou un mélange donc de ménagères avec des bigoudis sur la tête, mais aussi d'Africains américains employés aux poubelles. Et il y a une contrariété, c'est qu'en général, ce sont des sortes de déchets humains, quoi, mais qui lisent bizarrement Art Forum ou se documentent sur Kierkegaard. Et alors, ils sont très gros, il y a eu du silicone d'abord, il y en a en bronze, ils sont assez imposants, mais donc légèrement plus grands que Bigger Than Life, comme dit Hollywood. Et l'intelligence de l'exposition, c'est qu'il y a des salles, on arrive par derrière, en fait, c'est-à-dire qu'on les voit assis de dos, et cette présence, au bout d'un moment, vous regarde quand vous passez. C'est pas vous qui regardez les statues, évidemment, ce sont elles qui vous fixent. Et il y en a une très imposante, c'est deux personnages sur un divan qui regardent un mur blanc. Donc on est vraiment on arrive par derrière, obligatoirement, et on est dans une sorte de projection complètement délirante. Projection qui est reprise par Thomas Demande, un photographe qui avait inauguré la première expo de la Villa Paloma en tant que curateur, et qui lui fabrique en carton et autres choses, des meubles, enfin des objets qu'il refotographie, il reconstitue des scènes comme ça, en fake et en faux. Et il y a exactement répondant une image d'une cabane, alors dont j'ai oublié l'histoire, une cabane qui a été le lieu d'un massacre ou qui a servi de cache, je crois, je ne sais quel terroriste, voilà, mais elle est encadrée et présentée de telle façon que dans cette cabane, c'est soi qu'on voit quand on arrive, ce qui fait un pendant exact au regardeur de Duane Hanson.
Donc impeccable.
Donc Cristiano Raimondi, maître des lieux, a fait une assez belle expo dans ses bonbonnières délicates.
Et on peut découvrir ça jusqu'au.
Assez tard, 28 août.
Voire même 11 septembre, non ?
Alors 28 août pour Thomas Demande. Voilà,
et 11 septembre
pour Villa Marlène et Francesco Vezzoli. De l'autre côté.
Magnifique. Dans quelques minutes, donc direction Nice, on n'est plus très loin. Pour parler de deux expositions à la Villa Arson. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, Camélia Jordana. On peut retrouver son actualité sur franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute. Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci. Camélia Jordana, alors. On a parlé de spectacle lundi, je voyais à peu près. Mardi, le cinéma, vous connaissiez aussi. Ce soir, les arts plastiques. Alors, je sais moins quels sont, vers quoi vous pouvez être attiré, quels sont vos goûts, quelles sont vos envies. Dans une vie de tournée, bon, le soir, on chante. L'après-midi, on fait la balance et on a du temps peut-être pour aller quoi dans les musées. Ça vous arrive les galeries?
Non. Alors, on dort et on répond à tous les mails.
Ah oui, vous faites ça, vous?
Enfin, moi, c'est comme ça que je me débrouille. Enfin, non, honnêtement, quand j'ai la chance de jouer à l'étranger, je prends toujours le temps. Enfin, quand j'ai la chance d'être à l'étranger tout court, que ce soit pour faire de la musique, pour jouer ou simplement off en vacances. Quoi qu'il arrive, je prends le temps d'aller voir un musée d'art moderne. Mm-hmm. Anyways, maintenant, c'est vrai que... Je sais pas si je joue à Benodet ou à Brest. Je vais prendre le temps d'aller voir l'océan 20 minutes avant la balance, mais sinon je vais rattraper mon retard.
D'accord. Alors cette envie d'art moderne, ça naît comment ? Ça passe par des gens qui vous ont initié, par un goût personnel, par des images qui vous ont attrapé ?
En fait, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à... Je ne peux pas dire à m'y intéresser sérieusement parce que j'ai le sentiment de ne l'avoir jamais vraiment fait officiellement. Je n'ai pas du tout une culture en art plastique très, très étendue, sérieuse ou travaillée. Quand j'étais au lycée dans le sud, c'était la grosse mode du pop art. Donc j'ai pris ma grosse claque pop art. En fait, j'ai commencé à faire de l'art plastique en cours, je veux dire, au lycée, un peu sérieusement, voilà, pas comme au collège, où on vous dit, bon, bah, il faut faire ça, sur tel artiste et tout ça. Et j'avais fait un truc super travaillé, c'est marrant, j'en parlais avec un ami il y a pas longtemps, et j'avais fait tout un truc entre Warhol et Liechtenstein, et la représentation avec la famille et tout ça, enfin, j'avais fait tout un truc hyper poussé, que j'avais présenté en fin d'année, j'étais hyper fière, j'avais 19, j'étais super contente. Bon. Et voilà, et en fait, de là, je me suis toujours dit que bon, bah, quand je voyageais, j'en profitais pour voir les œuvres des types quoi, qui avaient passé des heures à faire, eux, ça, sérieusement. Parce que je trouve que Je sais pas, c'est une branche, moi, qui m'émeut beaucoup parce qu'il y a de la matière, en fait. Il y a de la matière palpable et visuelle qui est pas un fichier, en fait. Et du coup, avoir un bout de quelqu'un en matière, ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, encore une fois, c'est pas une culture que j'ai pris le temps de pousser tant que ça. Ces derniers temps, j'avais un ami français avec qui j'étais à l'école, justement, quand j'étais plus jeune, qui maintenant vit à Londres, qui a beaucoup voyagé, qui est photographe et qui avant qu'on se voit et qu'on se rejoigne dans Paris, venait d'aller voir l'expo Harakiri, qui m'en a parlé, mais presque avec des c'était même plus des étoiles, c'était des larmes d'étoiles de ce qu'on veut dans les yeux, genre, mais. Et lui connaissant très bien l'œuvre d'Harakiri, en me disant, genre, mais c'est dingue ce que le. Alors, comment il appelait ça, le. Je crois que c'était l'équivalent du commissaire d'expo, mais il me disait que non, c'était un terme anglais. Je sais plus ce que c'était, Colluster. Ouais.
Curateur.
Curateur, oui, c'était ça, merci beaucoup. Le curateur, c'est le commissaire d'expo,
mais oui.
C'est ça.
Mais maintenant,
oh,
c'est tellement plus chic.
Pas, le vilain, je
c'est tellement plus chic de dire curateur.
Dirais, écoute, j'étais à Radio France, j'étais confiant que curateur, mon copain.
Oui, c'est bien le commissaire d'exposition.
Et voilà, il me disait que donc son curateur, là, son. Il me disait que le commissaire d'exposition avait fait un travail dingue, justement, sur son œuvre et à quel point c'était très cohérent. En même temps, il y avait vraiment l'évolution de cet artiste-là et ça, il m'a vraiment donné envie d'y aller. Il m'a parlé du Palais de Tokyo aussi, dont il revenait.
Ah, il faut y aller aussi.
Et ouais, il paraît qu'il y a une expo qui est magnifique. Enfin voilà. Et du coup, j'ai une amie qui va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expos, vraiment. Et d'autres qui vont en voir, mais une particulièrement. Et en fait, à chaque fois qu'elle revient, je suis là, ah, oh, mais non, mais il faut vraiment que je fasse ça dans la vie quand même. Et j'arrive vraiment pas à prendre le temps parce qu'en plus de ça, les expos que j'ai envie de voir, généralement, elles sont à l'autre bout de Paris. Moi, j'habite dans le 18e. Donc, c'est pas comme un ciné où je descends en bas de chez moi et j'ai une heure à tuer, quoi. Une expo, ça prend du temps, ça prend. Enfin, si je le fais, en tout cas, je tiens à le faire sérieusement, quoi. Voilà. Donc, un jour, je prendrai des vacances pour aller faire des expos. Mais.
Bon, bref. C'est un bon projet.
Ouais. Un de ces quatre. Non, mais par exemple, pareil, on est passé en scooter avec cette amie devant le Louvre. Je me suis dit, mais merde, ça fait 8 ans que j'habite à Paris. J'ai jamais mis un pied dans le Louvre, quoi. C'est absurde. Enfin, c'est bête, quoi.
Est-ce que vous êtes monté sur la Tour Eiffel ?
Je suis allée au premier étage parce que je faisais une émission dedans.
Bon, voilà. Ben voilà, les Parisiens ne profitent pas assez de Paris.
Non.
Donc, allez au Louvre, allez au Palais de Tokyo, musée Guimet, partout. Et on reprendra la conversation dans quelques temps.
Très bien.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques après Bâle, Nice et la Villa Arson pour y découvrir deux expositions, celle consacrée à Eva Barto et une du collectif Zuzalka. Honneur aux femmes, avec l'exposition consacrée à Eva Barto dans Le commissaire est un homme. Éric Mangion, patron de la Villa Arson, Eva Barto, diplômée de l'ENSBA à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 2013, qui a enchaîné avec le post-diplôme à Lyon. Un travail qui a déjà été exposé à l'excellente BF15 à Lyon, à Primo Piano et à la galerie GB Agency à Paris. De quoi s'agit-il ? To set property on fire, nous annonce le titre de l'exposition qui se baserait sur l'histoire de Pierre-Joseph Arson, premier consul de la ville de Nice, dont l'histoire m'a paru au départ proprement invraisemblable, puisque j'ai pas pu aller à Nice, mais je me suis quand même renseigné sur le garçon. Alors à moins que tout soit organisé pour inventer cette histoire, elle est vraie, elle est invraisemblable, cette histoire de Pierre-Joseph Arson.
Écoutez, puisque vous me regardez, je pense que vous me passez la parole.
Je sais pas. C'est vous qui me regardiez, donc j'ai senti que vous aviez envie de l'apprendre.
Non. Oui. Vraisemblable ou invraisemblable. Invraisemblable, ça c'est sûr.
Ouais.
Véridique, peu importe, d'une certaine façon, puisqu'elle aurait inspiré, nous dit-on, Honoré de Balzac, grand spécialiste de la conspiration, avec l'histoire des 13 lui-même. Donc, je ne suis pas allé vérifier si Pierre-Joseph Arson, comme l'indiquent Eva Barto et Éric Mangion, a a dilapidé sa fortune à force de lire Joseph Henné Vronsky à la recherche de l'absolu, et j'avoue que je m'en fiche un petit peu. Non, mais c'est vrai. Par ailleurs, l'arsoniste, qui en anglais voudrait dire le mec qui fout le feu, le pyromane, je suis pas allé vérifier non plus, ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'on est voilà dans une fiction. Et alors, de quoi retourne ou ne retourne pas, de quoi dépose plutôt l'exposition d'Eva Barto, To Set Property on Fire, mettre le feu à la propriété, donc ce serait anarchiste. On nous dit que c'est une exposition qui remet en cause l'économie de l'exposition en détournant les moyens propres à sa réalisation. Bon, alors l'exposition...
Ça commence mal.
Mais non, l'exposition... Oui, alors ça commence mal. L'exposition qui détourne les moyens propres à sa réalisation, c'est un peu comme dire prendre un pinceau pour faire une peinture aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le principe de toute exposition conceptuelle où le matériau de l'exposition est remis en jeu par l'exposition elle-même. Mais le travail d'Eva Barto, qu'on avait déjà vu à la GB Agency, qui s'appelait Infinite Debt, une dette infinie, repose sur la valeur, on va dire, d'usage opposée à la valeur d'échange, et elle construit tout un univers tout à fait délirant de transsubstantiation, en quelque sorte, où le déchet, le reste, le à côté, en quelque sorte, va devenir, sinon valable sur le marché, effectivement, de l'échange, mais valable par son usage. Et elle construit donc une série de récits. Alors le plus drôle, c'est que vous avez un dépliant qui est fourni, parce que évidemment, si vous y allez comme ça, vous dites bon, ben, comme dirait un ou une de mes collègues, ben, ma foi, il y a des morceaux par terre, et puis quelques-uns accrochés au mur, et puis des
très mauvaises imitations.
Oui, c'est pas elle que je pensais, d'accord. C'est pour ça. Mais vous avez des noms à la Filiou un petit peu partout qui vous explique que ce sont donc des morceaux du ticket d'entrée lui-même à valeur variable, déchiré et mis dans un trou dans le mur. Bon, alors tout ça, on s'en fiche finalement, on s'en ficherait si ça ne fonctionnait parfaitement du point de vue des artefacts et du point de vue physique de la déambulation, c'est-à-dire qu'on entre en effet dans un univers mental, une fiction mais pauvre, hein, parce qu'évidemment tout ça, tout est blanc, gris, vous avez dans une des salles les restes à peine perceptibles d'un feu, d'un allumage de feu qui n'a pas vraiment eu lieu, mais alors il faut vraiment se mettre sur le mur pour voir les traces, hein. Les pompiers n'ont pas eu besoin d'intervenir. Ailleurs, un câble sectionné, donc très très peu de choses, hein. On est comme ça dans le minime, dans la trace, la circulation au sens propre, parce que en effet on fait une sorte de colimaçon pour entrer jusqu'à la salle principale, qui est jonchée elle aussi d'objets, construit, je sais pas, un endroit où on a envie de rester, quoi. Il y a quelque chose de très physique. Alors, c'est pour ça que, à la fois, bien sûr, on dit ça commence mal, l'économie de l'exposition qui détourne les moyens propres à sa réalisation. Ok, c'est bon, ça on connaît. Après, c'est toujours la réalisation qui fait la différence dans ce genre de travaux.
Et après avoir dit deux fois, on s'en fiche, finalement, vous dites, on y est bien.
Mais oui, c'est pour ça, c'est parce qu'on s'en fiche qu'on y est bien, c'est-à-dire qu'on ne va pas se poser la question de la véridicité, et on peut justement, la machine à fiction peut turbiner tant qu'on y est ou pas, voilà, hein, on s'en peut disposer.
Alors demandons à Frédéric Bonnet s'il s'en est fiché ou pas. Fichu.
Non, ni je m'en fiche, ni je m'en fiche pas. Je suis resté un petit peu indifférent au final, je dois dire, parce que en effet, cette exposition, c'est une spéculation dans la mesure où Eric évoquait très justement le principe de la fiction. Il y a seulement des bribes et des indices qui sont donnés à voir ou à percevoir. Tout ça est très très minimal et subtil. Il y a des traces d'une présence, il y a des traces d'un passage, et les traces d'événements. Donc on est un petit peu, oui, dans le domaine de la spéculation, voire de l'enquête. Il y a un travail d'écriture aussi qui est très intéressant, parce que le dépliant, justement, qui est remis aux visiteurs, qui fournit de références, c'est un travail d'écriture qui fait référence à des recherches approfondies. Enfin, je pense que ça, c'est une exposition qui, même si elle ne donne pas à voir grand chose, a nécessité beaucoup de travail, néanmoins, donc on a une amorce de scénario avec tout ça, mais ça peine à se concrétiser en quelque chose. Alors, si on décide qu'on reste dans le cadre de la spéculation, bon, ben pourquoi pas, ça peut tout à fait tenir en tant que tel. Moi, j'ai quand même une certaine frustration par un manque d'aboutissement. C'est pas que j'ai besoin d'un aboutissement pour un aboutissement, mais ça, au final, ça me mène quand même nulle part. Et ça reste complètement à l'état latent, à l'état de discours, et il me manque un petit quelque chose pour justement que je décide moi-même d'arrêter la machine à fiction, pour reprendre l'expression d'Éric. Et je trouve ça très intéressant de laisser des récits ouverts, mais voilà, je trouve qu'il manque quelque chose. Au final, j'ai du mal à me figurer la finalité du discours d'Eva Barthaud dans ce principe-là. Est-ce que c'est un discours anticapitaliste? Est-ce que c'est un discours capitaliste? Est-ce que c'est un discours critique? Est-ce que c'est un discours anarchiste? Au final, je ne sais pas de quoi elle parle. Et voilà, donc ça me gêne un petit peu.
Éric Lorraine, juste pour finir.
Oui, non, mais je crois qu'effectivement, ce sont des choses à explorer, cette réflexion sur, sur l'échange. C'est-à-dire l'échange, alors, qui vaut ici pour le sens, plus que pour l'argent. C'est-à-dire en quoi est-ce qu'on va transmuer ces objets? J'aurais plutôt tendance, moi, à penser à de l'anarchie, mais enfin, c'est pas non plus absolument sûr. Son exposition précédente qui s'appelait Une dette infinie, le titre lui-même me semble là aussi éclairant. On se dit, lorsqu'il y a de l'argent en psychanalyse, vous le savez, c'est l'équivalent de l'amour. Et donc, une dette infinie, c'est vouloir faire payer infiniment le visiteur ou le spectateur, lui demander un amour infini d'une certaine façon. Et peut-être si je dis on est bien là, c'est aussi que c'est une histoire d'adhésion, d'amour et de non-critique qui demandait presque aux regardeurs et aux visiteurs, c'est viens avec moi et entre dans le jeu. Alors, je peux dire deux mots, il y a un livre qui est vendu 1 euro, je crois, avec, qui sont les découpages de textes, et qui, lui, donne exactement presque une clé. Si vous l'ouvrez au hasard, vous trouvez des morceaux découpés dans un texte. Ce cours qu'il nous avait ouvert se composait de la copie accompagnée des explications nécessaires d'un ouvrage ayant pour titre « Introduction au traité du savoir suprême ». Et ce sont pas... Alors, ça correspond exactement à la description de l'expo, d'une certaine façon, mais c'est un texte du 19e siècle, en fait. Hein. Donc, on est aussi du côté de l'occultisme, voilà, de la magie, comme on l'a dit, de la transmutation.
Alors, quand vous étiez bien chez Pierre-Joseph Arson, vous êtes allé voir l'autre exposition présentée à la Villa Arson, celle d'un collectif ukrainien nommé Joujoulka, eux-mêmes invités à la Villa Arson par la fondation tout aussi ukrainienne Isoliatsia. Titre de l'exposition Blue Sky Catastrophe. 5 petites minutes pour en parler, Frédéric Bonnet.
Oui, c'est un projet qui prend place dans le
cours,
dans
la galerie trium, carrée. La voilà. Galerie.
J'allais dire la cour carrée, j'étais encore au Louvre. Non, c'est la galerie carrée, ouais. Cette fois-ci, qui oblige toujours les artistes à vraiment précisément penser à un projet. Et j'ai trouvé ce projet plutôt intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce collectif ukrainien. Et la fondation Isoliatsia, elle fait un travail assez ambitieux. Elle a été chassée de Donetsk, hein, Luba Mikhailova, la fondatrice de la fondation, qui est une femme d'affaires installée à Donetsk, a créé cette fondation dans un des anciens locaux industriels, et en 2014, elle s'est faite littéralement chassée par des milices pro-russes. Ils se sont réinstallés à Kiev et donc ils développent un programme d'art contemporain. Ces artistes-là font partie des artistes qui sont défendus. Et ce qu'on y voit, c'est un assez joli projet sur la notion de catastrophe sociale et sur la théorie du chaos, mais qui n'est pas du tout ni défaitiste, ni tragique, et qui justement essaye de dépasser le cadre de la tragédie pour penser des structures nouvelles, et sans non plus masquer un contenu politique assez fort. Et je trouve que c'est assez bien mis en scène, avec des projections ou des photos qui sont tout en hauteur dans les caissons qui forment le plafond de la galerie, et voilà, j'ai été plutôt très intéressé par ce projet.
Et vous, Éric Lorraine ?
Oui, ce sont des tout jeunes gens, et effectivement, il y a un aspect témoignage assez, qui fonctionne pas mal. Est-ce que c'est gênant si je parle de la troisième exposition ?
Non, si vous n'aviez plus rien à dire sur Blue Sky Catastrophe, parlez de la troisième exposition.
C'est-à-dire qu'il y a une troisième qui prend une très grande place dans la Villa Arson.
Alors dites-le.
Qui est Emmanuel Lenné, et le titre est en anglais un peu long. Beneath the surface are the same internal organs as everyone else. Sous la surface, il y a les mêmes organes internes que chez n'importe qui, qui, on va pas dire qu'elle ressemble un peu à celle d'Eva Bartos, mais c'est sur le même principe, c'est-à-dire des objets qui, au cours de workshop, ont été assemblés par l'artiste avec Eric Mangion, qui d'ailleurs lui-même a rédigé certains éléments du guide, parmi lesquels on trouve un os de bassin d'un chien dévoré par des singes dans l'Himalaya. Vous voyez qu'on est, dans le reste. Ah, vous l'aviez pas vu, hein, celle-là, Frédéric Bonnet, l'os de chien. Des fauteuils de la salle de formation des pompiers de l'étang de Berre, ce qui, moi, me fait toujours plaisir parce que je suis né à Istres, donc l'étang de Berre, je connais bien, les pompiers aussi. Hein. Et aussi une plaque d'égout sur laquelle Éric Mangion marche tous les matins depuis 10 ans, nous dit-il, qu'il n'est pas une plaque d'égout, mais qui est une œuvre, en fait, qui est dans la ville Arson, par un groupe appelé State of Sabotage, SOS. Donc on est en plein sabotage. Et le principe de l'exposition d'Emmanuel Lenné, si vous voulez, c'est un peu sur la désappropriation. Dans chaque salle, ou presque, il y a une vidéo qui nous montre la salle dans laquelle nous sommes, qu'on reconnaît immédiatement, avec parfois les mêmes objets et parfois légèrement d'autres, ce qui produit une ambiguïté à la fois agréable et perturbante. Mais bon, alors c'est dans un genre beaucoup plus coloré, évidemment, que Eva Bartos. On va pas comparer les deux artistes, avec une récurrence du chausson d'hôpital. Je n'ai pas creusé la piste.
Bon, bah écoutez, vous le ferez pour la prochaine fois. Vous
voyez. Frédéric Bonnet,
Frédéric, sur Emmanuel Lenné, non,
pas remarqué les choses.
Si, l'exposition, effectivement, elle est intéressante dans cette dichotomie de l'image et dans la manière dont elle perturbe littéralement le lieu et le temps, parce que cette projection, alors soit par la photographie, soit là plutôt par la vidéo du lieu dans lequel on est, évidemment, ça perturbe, ça nécessite un temps de travail considérable, parce qu'en gros, il faut mettre en place l'exposition et puis après aller photographier ou aller filmer, et ça remet en cause la nature véritablement des lieux.
Je me suis rappelé le mot que je voulais caser. On a la proprioception toute chamboulée.
D'accord, mais écoutez, je crois qu'il fallait vraiment le dire pour terminer cette émission.
Ça et fait
pour,
rire, Bonnet.
Pour dire que ces expositions d'Eva Bartos, du collectif Zuzulka et d'Emmanuel Lenné sont donc à découvrir à la Villa Arson à Nice jusqu'au 29 août.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous concluons avec le jeu de la dispute. Antoine Guillaume, retour sur le jeu d'hier soir d'abord.
Qui vous proposait des invitations pour l'exposition Beat Generation jusqu'au 3 octobre au Centre Pompidou à Paris. Et donc depuis hier, vous vous demandez quelle est cette ancienne ministre qui a intitulé son mémoire de diplôme d'études supérieures d'anglais, la Beat Generation et son influence sur la société américaine. C'est évidemment Elisabeth Guigou, mémoire présentée en juin 1969 à l'université de Montpellier.
Ah ben voilà, Éric Loret, c'est comme ça. Ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour aller voir La Forêt de Quinconce, le film de Grégoire Le Prince Ringuet qui est sorti aujourd'hui. Quelle est la question?
De qui sont ces vers qu'on entend dans le film? Écoutez bien, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas.
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, pendant que tout le monde cherche dans le studio, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous Frédéric Bonnet, Éric Loret, Antoine Guillaume d'y avoir pris part avec moi. Merci à l'équipe de la dispute, Hugo Boursier, Séam Boutata, Daniel Finot, Antoine Guillaume et Virginie Leduo. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour, réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique, en compagnie d'Emmanuel Giuliani et Emmanuel Dupuis. À notre sommaire, un opéra, Don Carlo de Verdi, mis en scène par Robert Carsen à l'Opéra National du Rhin. Un DVD, Janis Kiki de Puccini, c'est un opéra qui est mis en scène ici par Woody Allen. C'est chez Sony Classical. Et puis un double CD, Shostakovich à l'ombre de Staline, les symphonies numéro 5, 8 et 9, ainsi que la suite pour Hamlet, dirigée par Andris Nelson chez Deutsche Grammophon. On retrouvera Antoine Guillaume pour la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute, les choix de la chanteuse et comédienne Camélia Jordana, invitée de la dispute, un nouveau cadeau à gagner. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15. Hors champ par Laure Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.